Voici Charles Berling, celle à qui Gérard Darmon a dit la semaine dernière.
J'ai eu trois rêves comme ça que j'ai fait. J'ai rencontré McCartney, j'ai rencontré Stevie Wonder, et maintenant je vous rencontre.
Mesdames et messieurs, Ève Roger. Aujourd'hui, Ève, une question un peu taboue. Les couples qui n'ont plus de rapport sexuel sont-ils encore des couples ? Rassurez-nous, rien d'autobiographique dans le choix de ce
Absolument
sujet.
Absolument pas, je suis jeune mariée.
Alors, ça n'empêche pas.
Je vous mentirais si je vous donnais le chiffre des couples qui ne font plus l'amour, parce que personne ne l'avoue, et même pas à soi-même, parce que c'est vraiment une question aussi de déni. Donc, mais un psy m'a dit, si tous les couples qui ne faisaient plus l'amour se séparaient, eh ben, ça serait une hécatombe. Donc je dis à tous ceux qui nous écoutent...
Mais ça ouvrirait le marché.
Pas bête.
Qui est un peu congestionné.
Vous avez raison.
Pour, hein.
Calmez-vous, Eva.
Ce que je dis par là, c'est que les auditeurs, le public qui est là, je dis détendez-vous. Parce que c'est une situation tout à fait commune.
Détendez-vous, il faut l'accepter alors. Il faut s'y résigner ou il faut repartir sur le marché.
Non, mais ça, les deux. En tout cas, il faut pas en avoir honte. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas les femmes qui ont moins de désir. Ça arrive aussi aux hommes. Et je vais vous raconter l'histoire d'Alexandra. Alexandra, elle a 48 ans. Elle est mariée depuis un peu moins de 20 ans. Et c'est son mari. Ben, il n'a plus envie. Et tenez-vous bien, ça fait 8 ans qu'ils n'ont plus fait l'amour. Comment en est-on arrivé là ? Écoutez, Alexandra.
Moi, au bout d'un moment, ça m'a pesé un petit peu parce qu'à chaque fois, on me disait « Oui, mais c'est le stress du travail, j'ai pas la tête à ça. » Au bout de plusieurs années, je me disais « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Et je lui dis, écoute, si ça continue comme ça, moi je suis pas une nonne, moi j'ai des besoins par contre que tu n'arrives pas à combler. Je lui dis, voilà, c'est simple, c'est soit on va voir quelqu'un, soit moi je te quitte.
Alors voir quelqu'un, ça veut dire voir un psy. Alors ils sont allés voir un psy, un thérapeute de couple, et ben ça n'a rien changé. Alors moi j'ai demandé à Alexandra, est-ce que vous n'avez pas envie d'aller voir ailleurs ?
Que ce soit lui ou moi, on est assez jolis, on va dire. Disons que je suis assez sollicitée. Il y a une fois, j'ai failli craquer et je me suis dit, oui mais non. Mais non, j'ai pas eu le courage.
Elle a pas eu le courage parce qu'elle est attachée à la fidélité. Alors après, la phase de frustration.
Je veux bien qu'on soit attaché à la fidélité, mais 8 ans, c'est pas humain.
Faut qu'elle lise Madame Bovary.
Voilà, oui. Par exemple.
Donc elle est passée au stade de l'acceptation. Parce que ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, elle vit plutôt bien malgré l'absence de vie sexuelle.
Ce qui fait qu'on tient encore en tant que couple, c'est qu'on a un respect mutuel. On échange énormément. Et je me dis, voilà, est-ce que ça vaut le coup de partir, sachant qu'à côté de ça, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Il y a beaucoup de tendresse, il y a beaucoup de complicité, on a une vie sociale qui est très riche.
Donc vous voyez, on peut vivre sans sexe, oui, mais avec un mari qu'on aime.
Ça s'appelle la résilience. Que disent les psys, Ève Roger ? Est-ce qu'un couple peut être encore un couple ? Heureux sans faire l'amour.
Tout dépend de la configuration. Si les deux sont d'accord sur l'absence de sexualité, mais qu'ils ont d'autres centres d'intérêt en commun, ça peut être la voile, la gastronomie, le cinéma.
Ou le sexe.
J'allais dire, ça peut coller. Ça peut coller. À condition de continuer à avoir de l'intimité, parce que c'est ça qui est important, c'est de continuer à avoir de l'intimité, un contact physique, des caresses, et puis on ne sait jamais, ça peut revenir. Et puis, il y a ceux qui font avec, ou plutôt sans, et là, j'adore Amandine, elle a 32 ans. Chez eux, il n'y a plus trop de sexe, parce que la configuration... C'est un tue-l'amour, c'est-à-dire des enfants en bas âge, un job harassant. Et ben ils en ont pris leur parti, écoutez comment.
Vous pouvez nous arriver de nous coucher en nous disant, moi en lui disant, tu sais, j'ai envie de toi, mais je suis vannée. Et lui, bon, pareil, bon, bah allez, on fait dodo, hop, on se colle l'un à l'autre, et puis...
Et puis bonne nuit.
La fameuse position de la cuillère.
Ouais. Voilà. L'autre possibilité, tout le monde est d'accord pour aller voir ailleurs, ça c'est une façon de s'en sortir, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis la troisième, ça coince, si l'absence de sexe crée de la souffrance pour l'un ou pour l'autre. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors là, évidemment, il faut consulter. Et des solutions, il y en a plein. Mais ça sera peut-être l'objet d'une autre chronique. Alors, je vais vous laisser.
Mais le teasing. On voit que le public est très attentif.
Ouais.
Mais je pourrais vous donner, si vous me demandez, je pourrais vous donner un conseil. En tout cas, je vais vous laisser méditer avec une citation d'Aristote que j'adore.
Oh, la vache.
Le désir, c'est l'appétit de l'agréable. Le désir, c'est l'appétit de l'agréable. Donc, si vous savez ce qu'est l'agréable, vous aurez du désir.
Vous savez qu'il y a une île grecque où ils vivent plus de 100 ans parce qu'ils font l'amour jusqu'à plus de 80 ans.
Ah.
Et que c'est une île qui est très connue pour ça. Ils ont beaucoup d'appétit sexuel.
Et voilà, donc ils ont donc,
des... Vous avez votre résidence secondaire, d'ailleurs, il faut le dire, Charles Berling.
Ça maintient en vie, donc essayez de...
Ah bah
mais
c'est...
Voilà, c'est-à-dire... Et puis, il y a eu, dans l'histoire de France, il y a eu beaucoup de périodes où il y avait des couples de raison, donc on est avec quelqu'un, mais après on peut avoir une vie amoureuse et sexuelle ailleurs, mais ça ne posait pas de problème. C'est le mariage bourgeois qui a figé un peu les choses, ça fait trop souffrir les gens. Donc allez voir ailleurs.
Allez-y,
c'est la deuxième solution. Ailleurs.
Et ça sera la prochaine chronique d'Ève Roger. Tour de table rapide, vous Jean-Philippe Ballas à la maison, tout va bien ?
Ça t'emmerde, hein ?
ça ne m'emmerde pas du tout, Jean-Philippe, je suis même content pour vous et on embrasse Mireille.
C'est mon
Mais c'est son droit de vous aimer, c'est son droit. Pour vous les jeunes, c'est Antoine Polochon dans Les Profs. Pour moi, c'est l'irascible Monsieur Marcadet dans Les Robins des Bois.
C'est pour vous, Monsieur Marcadet, il y a un monsieur au bout du fil.
Un monsieur ? Au bout du fil ? Oui. Oh, il doit être tout tournicoté.
Oh là là, Monsieur Marcadet, vous savez quoi ? C'est mon rêve de rire à cette blague, mais j'y arrive pas.
Oh la pute !
C'est toute une époque, ça, quand même, les Robins des Bois.
Et juste après, je l'ai démantelé, Marina, oui, avec une tronçonneuse.
Il y avait beaucoup de violence dans
beaucoup
ces sketchs.
De violence,
ouais. Aujourd'hui, je ne sais pas si ça pourrait passer encore après MeToo et tout ça. Mais c'était quand même une belle époque. Pef, vous êtes avec nous cet après-midi. Beaucoup de chemin parcouru depuis les Robins des Bois. Le succès en tant que réalisateur avec des films comme Prof 1, Prof 2. Vous êtes de retour avec un film très différent, là, pour le coup. Très, très différent. Fahim, l'histoire de ce jeune Bangladais qui émigre en France et qui est sans papier et qui va s'en sortir via les échecs. Un mot déjà de comment vous avez fait ce film. Est-ce que quand on est PEF et qu'on a plutôt l'image d'un réalisateur de comédie, on obtient facilement des crédits pour faire un film qui est un drame quand même, hein. Il y a des moments souriants évidemment dans le film, ouais. Des beaux moments, mais c'est quand même un drame, quoi.
On se dit tout ?
On se dit tout.
Ah oui, non, c'est...
Ça a été la croix et la bannière.
Oui. Ça a été la croix et la bannière. Vous imaginez bien, c'est comme quand on dit, regardez, tel acteur qui nous fait rire depuis des années, il n'arrive pas à jouer dans un drame. Voilà, c'est ça, on a une étiquette et c'est pareil pour le financement. Après, si Fahim marche, comme par hasard, tout va s'inverser.
Évidemment.
Mais
le premier drame, c'est compliqué à monter, quoi.
Oui, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, les gens, mais bon,
mais voilà. Qui reste à sa place. L'histoire est tellement incroyable. Vous avez Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, quand on parle des acteurs très connus.
Ah, peut-être que vous ne les aviez pas avant de signer le film. Est-ce que vous saviez dès le départ qu'ils feraient partie de l'aventure ?
Oui, mais ça n'a rien à voir avec... Non, c'était compliqué, je pense, parce que je suis humoriste et on se dit, mais il n'y arrivera jamais à faire ce genre. Je ne sais pas ce qu'ils se disent, ma foi.
Malgré la force du scénario, qui repose sur une histoire vraie qui est déjà extrêmement forte en elle-même. Donc, vous avez eu, on le dit, Gérard Depardieu, évidemment, ce film qui est énorme. Il est le prof d'échecs que vient voir Fahim, le grand prof d'échecs qui forme des petits champions. Et donc, de nombreuses scènes du film, il joue lui-même aux échecs. En tout cas, il monte sur un tableau les placements, les cases. Sur lesquelles... Ouais. Et donc, quand on voit le film, on se dit « Waouh, GG, il a dû bosser pendant 3 mois pour connaître les échecs parfaitement. » Est-ce que c'est le cas, vraiment, Pierre ?
Alors, je peux vous raconter la première fois que j'ai rencontré Gérard Depardieu. Bon, je parle pas de 15 ans plus tôt, mais quand je suis allé chez lui, vous savez, c'était comme un rêve, parce qu'il m'avait dit oui en décembre, juste avant Noël, et je le rencontre qu'en juin-juillet. Donc j'avais très peur qu'il ne fasse pas mon film, j'étais en panique, voilà. Et j'oublierai jamais ce moment, il m'accueille dans sa maison là, de parisienne en slip, il faisait très très chaud, il m'a dit rentre vite, et voilà, et j'arrive chez lui, et bon, j'ai passé 2 heures incroyables, il y avait des livres de partout, de la musique classique, mais il ne me parlait pas du tout de Fahim, il me parlait de Hiroshima, du Japon, de la guerre d'Algérie, du colonialisme, de ces connards d'Américains. Et au bout de 2 heures, j'ai dit, il y a Gérard qui enfin me pose des questions sur le personnage qu'il va incarner, Xavier Parmentier, sur Fahim, sur le papa, Noura. Et puis vient la question que je dois lui poser. J'ai dit, Gérard, il faudra que tu apprennes les échecs. Et là, j'ai vu la main d'Obélix qui allait me faire passer à travers le plafond. Non, mais il riait pas du tout. J'ai vraiment vu sa paluche. Ah ouais. Je me suis dit, mais il va me. Ah oui, c'est l'ogre. Vous savez, le bus, le quoi, qui se réveille. Et donc, je me suis dit, je lui en reparlerai sur le tournage. J'ai été très péteux, très lâche.
Mais alors, comme quoi, ça prouve encore que c'est un immense acteur. Parce que quand on voit son maniement des pièces de l'échiquier, on a l'impression qu'il a vraiment intégré le rôle à l'américaine, acteur studio, qu'il a passé un mois.
C'est un génie. Après, 2 mois plus tard, je vous cache pas qu'on s'est un peu engueulé au début, hein, parce que je lui faisais enchaîner 14 coups, quoi.
Ouais.
Et puis, non, il s'y est mis, en fait. Il est génial. Mais c'est un grand travailleur. Hein. Beaucoup de gens préfèrent raconter des petites salades sur lui, comme quoi il apprend pas ses textes et tout. Tu parles, c'est un génie, ce type.
Ouais. Et ce film est donc issu, on le disait, de l'histoire vraie et poignante de Fahim, 8 ans, qui, en compagnie de son père en 2008, a dû quitter son pays, le Bangladesh, pour des motifs politiques, à la suite de menaces d'enlèvement. Et dès leur arrivée à Paris, commence alors pour eux un véritable parcours du combattant pour obtenir l'asile politique et éviter l'expulsion. Vous avez suivi évidemment ce qui est arrivé à Fahim après, j'imagine. Vous savez aujourd'hui ce qu'il devient ?
Oui, heureusement, j'avais envie. J'ai la chance de faire un biopic sur une personne vivante. Donc, il était hors de question pour moi d'être loin de lui et puis de le trahir. J'aurais été malheureux. Et donc, il m'a même accompagné en tournée un peu cet été. Là, qu'est-ce qu'il est devenu ? Aux échecs, c'était plutôt pas mal. Il était encore vice-champion de France en 2018. Sauf qu'il a laissé complètement tomber l'école. Donc, il a passé son bac en candidat libre. Heureusement, il l'a eu. Mais là, il est en train de se reprendre en main. Il se rend compte que les échecs, c'est juste une passion et qu'il ne pourra pas en vivre. Et donc, il s'est inscrit dans une prépa école de commerce. Très difficile.
Histoire de mettre toutes les chances de votre côté, vous allez nous parler de viande.
Exactement, puisqu'il y a un rapport qui vient d'être publié d'Agrimaire et de Kantar, repris dans les Échos et repris sur Europe 1, donc, sur notre consommation de viande. Et c'est très surprenant. Si vous regardez depuis 2007, notre consommation globale, il y a plein de changements, de viande n'a pas bougé, je l'ai dit tout à l'heure. Nous, chaque Français consomme en moyenne, moi ce chiffre m'hallucine, 83 kilos de viande. Alors évidemment, il y a le type de viande qui a bougé. On mange de moins en moins de bœuf, donc en 12 ans, la consommation de bœuf a baissé de 12%. En revanche, c'est la volaille qui a explosé. Hein. On se prend de plus en plus de canards, de poulets, etc. Plus 30%. Alors, pourquoi est-ce que la consommation de bœuf a baissé? C'est essentiellement, vous en avez parlé, pour des raisons de santé. Vous savez, la viande rouge, c'est...
Il y a beaucoup d'études qui nous disent tout le temps que la viande rouge, il ne faut pas trop, voilà, une ou deux fois par semaine, pas plus.
Ça provoque du cholestérol, de la tension artérielle. Donc, ça infuse et donc on achète moins de viande rouge. Et puis, la viande rouge, c'est beaucoup plus cher. Un kilo de bœuf, c'est 16 euros, alors qu'un kilo de volaille.
Je rigole parce que vous avez l'impression que vous êtes vénère.
C'est ça que...
Le bœuf, c'est 16 kilos.
Non, 16 euros le kilo.
Voilà. J'adore la passion. Quoi.
Tout ça pour dire que notre consommation de viande a changé, non pas parce qu'on serait devenu subitement très sensible à la question animale, mais c'est pour des questions de santé personnelle et pour des questions de portefeuille. Vous
évidemment,
voyez
évidemment. Voilà.
Et les vrais végétariens, ceux qui disent, enfin maintenant on dit vegan ou enfin il y a une différence, mais ceux qui ne mangent jamais de viande.
Ce que j'aime bien avec Axel, c'est qu'il est pointu. C'est-à-dire que là, vegan, végétarien, c'est pas la même chose.
Oui, c'est pas la même chose. Voilà. Mais ceux qui ne mangent jamais de viande, c'est très rare en fait. Alors eux, ils le font pour une cause, pour le bien-être animal. Et parce que pour défendre la cause animale, mais ils sont très rares. Tout ça pour dire que si l'on mange moins de viande, ça n'est pas par religion, c'est par opportunisme. Ce qui fait que dans les restaurants, eh bien, on veut se faire plaisir, les trois quarts des Français qui vont dans la... Et voilà. Et du coup, on se dit, c'est le moment de
manger la barbaque au resto. Ouais,
une bonne barbaque. Et c'est pour ça que c'est très contre-intuitif, mais les steakhouse et les restaurants cartonnent. De viande cartonnent pour deux raisons. Un, parce que justement, c'est le moment de se payer la bonne côte de bœuf qu'on ne s'offre plus à la maison. Et puis, il y a tous les jeunes qui sortent dans les fast-foods et qui sont aussi très burgers. La mode du burger a explosé. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle, vous savez, beaucoup de viande végétale.
Mais si vous regardez... ça va vraiment arriver, ça, la viande végétale?
Eh bien, justement, ils ont changé leur braquet. Maintenant, si vous les regardez, les KFC, là, ils font tous Nestlé, etc.
Pardon, il faut expliquer à nos auditeurs, on joue à un jeu avec Zary qui s'appelle Titre. C'est-à-dire que dès qu'on entend une phrase qui peut ressembler au titre d'un film pornographique, on dit Titre.
Ah, voilà. Et là, ils ont changé leur braquet.
Tout de suite, avec Zary, ça a percuté. Quoi.
Voilà, donc ils ont abandonné le végétal pour le carnet. C'est ça que je voulais dire, changer leur braquet. C'est qu'autrefois, ils assumaient de faire. Non, ils assumaient pas du tout, au contraire. Ils disaient, on va faire de la viande végétale, alors que maintenant, on dit, on va faire de la viande qui ressemble à de la vraie viande. Donc vous savez, maintenant, les nouveaux viandes végétales, on reproduit la couleur du sang avec de la betterave, oui. On reproduit même le sang qui coule, etc. parce qu'on veut tromper les papilles.
Et voilà. Titre.
Ça se discute. J'arrive, vous faites attention à ce que vous mangez, ou vu l'énergie, vu les calories que vous devez brûler sur scène chaque soir, vous pouvez bouffer n'importe quoi au McDo?
Non, je fais extrêmement attention à ce que je mange. Vraiment, j'ai appris à équilibrer mon alimentation depuis un an et demi. D'ailleurs, j'ai perdu 9 kilos en mangeant.
On vous en félicite.
Mon partenaire aussi est heureux. je fais très attention à ça, effectivement, d'alterner le poisson, les viandes, mais comme les deux sont en voie de disparition. C'est un peu inquiétant.
Il n'a pas la moustache, mais il a le courage de Tom Selleck dans Magnum. François Gabart est avec nous. On rappelle le palmarès: Vendée Globe, Route du Rhum, Transac Jacques Vabre, record du Tour du Monde en solitaire. Là, vous vous apprêtez à vous lancer dans la première édition de la course Brest-Atlantique. C'est fou de se dire qu'il peut y avoir de telles différences d'objectifs entre vous et nous. Nous, hier, par exemple, on se satisfaisait de peu.
Merci
beaucoup, Lionel. Oh, on a fait un merci synchronisé.
C'était beau.
Bravo, Eva. Ouais, en mettant la barre moins haut, au moins on est rarement déçu. C'est ça qui est bien. Alors, François Gabart, votre passion de la voile et des défis est une affaire de famille. Vous racontiez dans votre livre Rêver large, paru l'année dernière, que lorsque vous aviez 6 ans, vos parents ont pris une année sabbatique pour traverser l'Atlantique avec leurs 3 enfants. Vous aviez alors 6 ans et au départ, vous ne saviez même pas nager. Racontez-nous ça.
Bah oui, c'est un petit voyage.
Petit voyage.
Petit voyage, ouais. Ah, chez les Gabart. Petite année sabbatique. quand on était jeunes. Mes parents aimaient le bateau. Ils n'étaient pas du tout marins professionnels. Mon père était dentiste, ma mère était magistrat. Et on était donc trois enfants. J'ai une petite sœur, une grande sœur. On avait donc 3, 6, 9 au départ. Et l'idée, c'était de partir un an, voyager, passer du temps avec nous, les enfants. Et puis surtout, vivre sur un bateau pendant un an, c'est quelque chose d'assez fabuleux. Mais c'est vrai que ces moments de petits breaks nous ont fait tous beaucoup de bien, je pense.
Et voyager en famille, justement, c'est intéressant. Aujourd'hui, vous avez le temps de faire ça, de voyager en famille, ou comme vous êtes professionnel de la voile, le temps sur un bateau, il est plutôt solitaire.
Pas aussi longtemps. Je prends pas d'année sabbatique. J'ai la chance, par contre, d'avoir un petit bateau de plaisance. Donc, avec ma femme, mes enfants, on arrive à shipper quelques jours par-ci, par-là. Mais on rêve dans les années qui viennent, j'espère, dans les 10, 15 années qui viennent, arriver à voyager en bateau. Parce que c'est quelque chose que j'ai vécu jeune, qui est assez extraordinaire, que je trouve fabuleux, qui permet, mine de rien, de voir des choses qu'on ne peut pas voir autrement, de se déplacer de manière assez libre, sans énergie fossile. C'est quelque chose d'assez fabuleux.
Jean-Philippe Ballas.
Vous ne trouvez pas que c'est trop lent quand vous sortez le bateau de plaisance?
Non, mais c'est assez drôle parce qu'en fait, du coup, c'est tellement différent qu'en fait, c'est plus du tout les mêmes repères et les mêmes choses. Et c'est bien d'ailleurs parce que quelque part, on est content de prendre son temps aussi. Alors, j'aime bien la vitesse, donc même en croisière, je suis toujours content quand ça va un peu plus vite, ne serait-ce parce que le déplacement permet quelque part, si le bateau va vite, même un bateau de croisière, ça permet d'agrandir le terrain de jeu. En fait, ça permet sur un week-end, pas simplement aller à la sortie du port, mais d'aller voir l'île qui est en face. Et donc c'est toujours intéressant, mais le rapport au temps et à la vitesse, le rapport au temps sur un bateau est complètement différent, et encore plus si on est en famille sur un bateau. On peut faire passer un peu le temps, c'est pas désagréable.
Comment on fait voler un bateau? Ces nouveaux bateaux, ces trimarans, ils sont faits pour ça, en fait.
Ouais, en fait,
il y a plus de contact avec l'eau.
Il y a quand même un contact, c'est un petit abus de langage, parce qu'on s'appuie sur les foils, donc ces appendices. Il faut imaginer comme une aile d'avion. L'avion, l'aile, on s'appuie dans l'air avec la vitesse. Ça permet de créer une force vers l'eau qui permet à l'avion de voler. Nous, sur nos bateaux, on a des petites ailes qu'on met dans l'eau, et avec la vitesse, ça crée une force vers l'eau. Alors, vu que l'eau est plus dense, on n'est pas obligé d'aller aussi vite qu'un avion pour créer la même force. Et on peut comme ça élever le reste de la coque, la carène, au-dessus de l'eau. Alors, pourquoi on fait ça? C'est pas juste pour le plaisir de voler, même si c'est très sympa. C'est parce que les frottements liés à ces appendices, à ces foils dans l'eau, sont bien moins importants que la traînée due à la carène dans l'eau. Donc, du coup, ça va plus vite. Plus on va vite, plus on peut voler. Et c'est un espèce de cercle vertueux assez extraordinaire.
Alors, on atteint quel genre de vitesse? Parce que pour les gens qui nous écoutent, vite, pour avoir des références, un paquebot, quand on fait une petite croisière, ça va à 11 nœuds, quoi, un paquebot.
Peut-être un peu plus. Je pense que les beaux paquebots, on a fait la course avec le Queen Mary il y a 2-3 ans. Et il avait gagné, mais sur l'ensemble de l'Atlantique, il n'avait pas fait exactement le même parcours. Enfin bon, bref, on va pas... Mais non, en pointe, on est capable d'aller beaucoup plus vite dès que le vent est favorable. Donc, un cargo paquebot, ça va entre 12 et 20, 25 nœuds.
Ouais.
Donc ce qui fait
en kilomètre à l'heure.
Ce qui fait en kilomètre à l'heure, entre 20 et 40 km à l'heure.
Ce qui est déjà beaucoup.
Quand nous, on est pratiquement capable, on va bientôt aller, je pense, à 100 km à l'heure.
À 100 km à l'heure, en voile?
En voile, ouais. La pointe du trimaran massif, la pointe de vitesse, c'est 49
nœuds.
C'est ça. Nœuds.
Ouais.
Et ce qui est assez fabuleux parce qu'on se sert que de l'énergie du vent et on arrive à aller à des vitesses qui sont assez sympas. Alors, 100 km à l'heure en voiture, par exemple, 100 km à l'heure, ça paraît pas. C'est assez classique, on va dire.
On ne se rend pas compte parce qu'on est sur des autoroutes. Mais là.
Ouais, exactement. La route, elle est assez plate. Et juste pour se donner un peu un ordre d'idée, vous imaginez avec votre voiture à 100 km à l'heure, si vous arrivez à 100 sur un dodane qui fait 15 cm de haut.
C'est ça tout le temps. C'est
ça
des
secoue un peu. Et nous, quand on avait 15 cm de vague, on est content. On a plutôt des vagues qui font 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Donc voilà, ça permet aussi de relativiser un petit peu. Et ça montre que c'est déjà assez extraordinaire d'aller à ces vitesses-là.
Quand j'aurai repris la carrière politique à laquelle me destinaient mes études et que je serai au gouvernement, je ferai passer une loi pour qu'on interdise aux types trop bien gaulés d'être aussi de bons journalistes. Voici l'agaçant Anissé Mbida, notre expert innovation. Anissé, vous nous parlez aujourd'hui de la réplique française à Google. Il était temps qu'on réplique, non?
Il était temps. Ça s'appelle Eurequoi. Et dans un monde de fake news, un monde de trolls ou de complots sur les réseaux sociaux, moi je vais vous proposer un petit havre de paix. Je vous propose de retourner à cette époque formidable, vous savez, où on se documentait où? À la bibliothèque. Parce que le moteur de recherche Eurequoi, c'est un moteur de recherche qui est géré par des bibliothécaires. Il y a 130, 150 bibliothèques en France et en Belgique, où il y a des documentalistes, où il y a des bibliothécaires qui répondent à vos questions. Alors comment ça fonctionne?
Ça ne peut pas grandir comme concept, parce que il ne va pas y avoir plus de bibliothécaires pour répondre à nos questions.
Pourquoi pas? Pourquoi il n'y en aurait pas plus?
Mais vous imaginez le nombre de requêtes traitées par Google?
Non, mais ne mais comparons pas. Écoutez d'abord l'intérêt avant de comparer. Et après, vous comparez. Comment ça fonctionne? Eh bien, on va sur eurequois.org, le site en question. On pose une question, on pose sa question. Il y en a une que, par exemple, j'ai posée. Est-ce que les jeux vidéo rendent violents? Et Google ne peut pas répondre à cette question, par exemple. Et là, on a des bibliothécaires ultra spécialistes dans leur domaine, dans les jeux vidéo, qui vont vous répondre, qui vont vous donner un texte personnalisé. Alors, on pose sa question. Ensuite, on indique son âge quand même. C'est très important d'indiquer son âge parce qu'il va adapter la réponse à l'âge de la personne. Si on dit qu'on a 4-5 ans, il ne va pas forcément donner la même réponse que si on dit qu'on est un expert qui connaît ce genre de choses. Alors, moi, j'ai fait poser la question et ce qu'il me donne à la fin, c'est une explication en disant, bah voilà, il y a, voilà des liens vers des articles qui parlent et qui traitent de ce problème. Voilà des listes d'études, justement, qui ont analysé l'impact du jeu vidéo sur la violence des jeunes. Voilà les polémiques qu'il y a à ce sujet. C'est vraiment très intéressant comme... Et arrêtez de rire, parce que c'est très intéressant.
En régie, on souffle des questions qui sont vraiment vaches, c'est-à-dire qu'on me dit, mais les bibliothécaires eux-mêmes sont sur Google pour répondre à vos questions.
Est-ce que vous avez déjà été dans une bibliothèque? Est-ce qu'elles sont sur Google?
C'est
un peu leur métier que d'être documenté, que de connaître les sujets. Et l'intérêt d'avoir tout un réseau de bibliothèques, d'une 200aine de bibliothèques, c'est qu'on peut trouver le spécialiste de chacune des questions, et ce spécialiste de chacune des questions va pouvoir répondre de façon la plus pertinente. Alors, ça dure 72 heures. Vous posez la question quel temps. C'est qu'il y a 72 heures maximum avant qu'on vous donne une réponse. Mais on vous donnera une réponse toujours sourcée, toujours circonstanciée. Alors, moi, j'ai des listes de questions qui ont été posées. Hein. Par exemple, donnez-moi des arguments simples pour démontrer que la Terre n'est pas plate. Ça, avec Google, vous ne pourrez pas le faire. Bien. Et là, il va vous donner des vidéos, des liens vers des articles, des explications extrêmement simples, même des liens vers des podcasts. Autre question, qui a inventé les échecs? Et bien justement, on dit que c'est une légende, on n'arrive pas à trouver, et donc on liste les légendes 6e siècle en Inde.
En Inde,
au 6e siècle, il y a eu des recherches, etc. Ouais. Mais c'est très sourcé, très documenté. Quelles sont les conditions à remplir pour obtenir l'asile politique, par exemple? Et là, il va vous donner les listes des documents de façon extrêmement précise. Donc, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus circonstancié, de beaucoup plus précis, et surtout documenté, que nos camarades de Google qui font ça en 3 secondes. Mais si c'est pour donner des réponses un peu bidons, pleines de fake news, je vois pas l'intérêt.
Et est-ce que c'est payant?
Non, c'est totalement gratuit et c'est ce que j'aime bien dans le service public, c'est que justement, moins de gens vont dans les bibliothèques. Avec ce moteur de recherche, ça permet aussi aux bibliothécaires, aux documentaristes de continuer à travailler et surtout de donner leur savoir, de faire profiter de leur savoir.
Donc en résumé, alors quelle est la démarche? Alors
on va sur le site eurequois.org, on va aussi sur l'application, une application qui s'appelle Eurequois, on pose sa question, on donne son âge, on donne son adresse email et on reçoit maximum 72 heures plus tard une réponse très circonstanciée, très sourcée. Et avec même parfois, si vous voulez en savoir plus, lisez le livre de Intel. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le film.
En fait,
je me
foutais de votre gueule, Anissé, mais c'est quand même vachement
bien.
Oui,
c'est superbe. Je pense qu'il va avoir une très bonne note aussi. Oui.
Non, mais pour les étudiants, c'est formidable. Pour les étudiants,
il y a quand même des limites. Ça veut dire que quand c'est médical, ils ne répondent pas aux questions médicales, aux questions commerciales. Et quand c'est un étudiant qui vient demander des infos pour faire ses devoirs, ils ne vont pas le faire à sa place quand même.
Et si on précise qu'on est très sensible en plus de notre âge, est-ce qu'ils prennent des pincettes pour nous répondre?
Parce que c'est personnalisé, parce que c'est un être humain, c'est ce qui change tout. Comme c'est un être humain qui est au bout, il va faire attention à l'âge, au sexe, même à l'endroit où la personne habite, pour donner des choses qui sont un peu plus précises.
D'accord.
Merci beaucoup Anissé, mais vous connaissez la règle, elle peut tomber à n'importe quel moment. Voici la question vache de l'autre chroniqueur. Anissel de Tarlé.
J'avais une question vache, eurequois, en lien avec l'excellent film de PEF, donc en lien avec le sexe.
Merci.
Le faillot de compétition. Et donc, c'était, en revanche, là, j'espère bien vous coller. D'où vient l'expression échec et mat? Vous avez dit que le jeu d'échecs venait de Perse, mais ensuite il est passé par...
Moi, j'ai dit qu'il venait de l'Inde.
Oui, on a dit l'Inde.
Au 6e siècle.
Et ensuite, il est allé par les pays arabes. Et donc, échec et mat, ça vient de el-chek et mat. Mat, ça veut dire mort en arabe, et el-chek, c'est le chef. Le roi est mort. Et c'est pour ça, c'est quand le roi tombe, échec et mat.
Super.
Ça vient de la langue arabe.
Je sens PEF extrêmement séduit. Peut-être
échec et mat.
Peut-être
que... Faut le dire comme ça. Voilà.
Un biopic sur Axel de Tarlé, ça pourrait m'en arriver. La prochaine belle histoire, après Lyon, après Fahim, je pense que là, ça serait vraiment un très beau film. Merci Anissé Mbida. Un dernier mot en hommage à nos années Robin des Bois.
Plus les vaches pètent, plus on a d'énergie.
Merci. Ça fait maintenant 4 ans que vous avez quitté TF1. Alors déjà, on s'arrête là-dessus. Quand j'ai vu ça dans mon dossier, 4 ans, j'ai l'impression déjà, que c'est hier que vous avez quitté le journal. Vous, vous avez cette impression, ça vous paraît loin ou ça vous paraît hier?
Non, ça me paraît vraiment... Enfin, très souvent, je l'oublie hein, et je regarde, j'avoue, un peu moins les journaux de 20 heures. Mais parfois, ça me revient, et notamment à l'occasion d'événements un peu dramatiques ou qui, j'allais dire, suscitent une émotion collective. Et là, je me projette et je me dis que j'aimerais vraiment être à l'antenne. Par exemple, l'incendie de Notre-Dame, qui est la dernière, qui a suscité des éditions spéciales. Et évidemment, ça m'aurait intéressé, oui.
Pour les gens, en tout cas, qu'on est allé rencontrer dans la rue, c'est comme si c'était hier.
Claire Chazal.
Chic, je dirais, bien apprêtée, bien coiffée.
Elle est blonde, elle est mince, elle est jolie.
C'est une femme d'une cinquantaine d'années, 1m65, qui doit peser une cinquantaine de kilos.
Physiquement, elle est sympathique.
Bah, tout le temps, à chaque fois, 20h à Claire Chazal.
Je sais plus si c'est la une ou la deux, mais la c'était une. La une.
Quelquefois, on la voit quand même sur Paris Match. Bah voilà, bon.
À la fois déterminée, sensible, jamais assez.
Vous nous manquez, Madame Chazal, revenez. Ouais, franchement.
J'adore Claire Chazal.
En plus, la nouvelle.
Voilà qui n'est pas gentil pour Anne-Claire Coudray, qu'on avait reçue ici, qui est une excellente journaliste aussi.
Oui, qu'on aime beaucoup.
On l'aime. Vous regardez parfois encore son JT?
Oui,
son
j'avoue que moi, je suis restée amie avec une ou deux personnes, vraiment très amie avec une ou deux personnes de TF1, et qui d'ailleurs construit le journal aujourd'hui. Donc je le regarde de temps en temps, et je trouve qu'Anne-Claire fait extrêmement bien ce travail.
Voilà qui est fair play, pas comme nos journalistes ici.
Mais c'est la vérité, hein, c'est ce que je pense vraiment.
Est-ce que vous êtes restée accro à l'info quand on a baigné comme ça dans l'info tous les quotidiennes comme ça pendant plus de 20 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours... je sais pas, comment vous consommez l'info avec votre smartphone? Vous
Alors,
avez des alertes?
Bien
vous êtes...
sûr que j'essaye de me tenir au courant de tout. Et moi, je m'informe par la radio, principalement. J'aime beaucoup la radio. D'abord, ça me permet de faire des choses en même temps, de bouger le matin, parce que moi, je suis assez active. Donc, je transporte mon petit poste de radio. Je m'informe comme ça. Voilà. Et évidemment, la lecture du Monde, principalement, là, sur mon smartphone, oui.
Quand même, Claire Chazal, quelle carrière! Quelle carrière, une carrière qui a
Il a pris sa respiration.
Mais oui, parce que je suis intimidé et je me dis que finalement tout a commencé ici, Claire Chazal. Il paraît que vous avez été pigiste à Europe 1.
Oui. Avant d'avoir ma carte de presse, enfin de rentrer vraiment dans le journal dans lequel j'ai vraiment appris mon métier, je l'ai vraiment aimé d'ailleurs, même si Europe a été formidable, c'est le quotidien de Paris, ouais. Philippe Tesson, c'était en septembre 81. Et juste avant, j'ai passé quelques mois à Europe 1, en stage. C'était la grande période d'Étienne Moujotte, bien sûr, Robert Namias, etc., relativement misogyne, je pense que ça a un peu
Vous en
changé.
Avez souffert à l'époque?
Oui, il y avait très peu de femmes à l'antenne. D'ailleurs, parfois, Madame Europe n'avait pas de nom. Enfin, on s'en souvient. Catherine Ney était puissante et très importante et remarquablement brillante. Moi, je l'aime beaucoup, mais il y en avait très peu. Donc, je me suis retrouvée dans cette rédaction. J'ai appris ce métier, j'ai pris le Nagra. On a fait évidemment des faits divers, des chiens écrasés. J'ai trouvé ça très bien. Je n'ai pas été gardée, car... Étienne, car il a dit à ce moment-là, je crois qu'elle n'est pas faite pour ce métier.
Donc, effectivement.
C'est ce qu'on m'a dit. Alors, c'est
vous en avez parlé avec lui après?
Oui, bien sûr, chaque fois. Après, je lui ai rappelé, on a ri beaucoup.
En 2018, Claire Chazal, vous avez écrit un ouvrage très personnel, Puisque tout passe. Déjà, on peut saluer la qualité du titre, très beau titre, Puisque tout passe. Je pense qu'il a dû surprendre bon nombre de lecteurs, car vous vous livrez de manière très personnelle. Et on apprend notamment que vous n'êtes pas du tout la femme sereine qu'on pouvait imaginer au JT de TF1. Vous confiez que vous étiez terrassée par le stress, la peur et les phobies, parfois jusqu'à la nausée, notamment lors d'une interview de François Hollande le 14 juillet 2015. Ça, alors vraiment, moi qui vous connais un tout petit peu, j'imaginais pas du tout que vous étiez quelqu'un de stressé. On vous voit très sûr de vous à l'antenne.
Bien sûr, l'idée, c'est de montrer une sérénité, de montrer un cas. Parce que déjà, nous annonçons des choses tellement dramatiques que si en plus on oppose le visage de la panique, c'est effroyable. Donc moi, je pense que j'ai réussi à montrer ce calme. Mais à l'intérieur, nous sommes des êtres humains. Et d'ailleurs, moi, je pense que c'est ça aussi la qualité d'un journal. Je pense qu'un journal doit être incarné et d'être incarné par un être humain qui a ses sensibilités, qui a sa personnalité. Moi, j'ai des émotions concernant certains sujets, bien sûr, l'exode périodes des enfants, les guerres, les maladies, la pauvreté. Tout ça doit aussi apparaître en filigrane, apparaître sans apparaître, de façon presque subliminale. Mais je pense qu'il faut montrer aussi une forme de sérénité à l'antenne, bien sûr.
Eva Rock.
Est-ce que vous vous souvenez avoir eu les larmes aux yeux pour une nouvelle que vous annoncez ?
Ah oui, bien sûr, c'est arrivé, bien sûr, bien sûr.
On ravale ses larmes, en fait
Oui, oui, ça peut monter. Oui, oui, ça peut monter. Alors, les plateaux, on le sait, d'un journal ne sont pas très longs entre chaque sujet. Donc, on a le temps de se récupérer, y compris d'ailleurs pour ses phobies, ce cœur qui bat, etc. On peut se calmer entre les plateaux. Mais bien sûr, pour notamment des sujets sur les enfants en général, hein, ou des témoignages particulièrement bouleversants. Et Dieu sait si on en a eu, bien sûr.
Alors ma chère Claire Chazal, c'est un moment de l'émission rapidement devenu incontournable.
Ça,
le quiz de l'invité contre la
roche. On ne sait jamais. Là,
instant culturel par excellence. Il est aussi parfois le théâtre de quiproquos douloureux. Comme pour moi hier quand j'ai cru que notre invité, le comédien Jarry, me faisait des avances. Alors qu'en fait non. J'aurais jamais pu présenter une émission de quiz comme Julien Lepers. Je ne sais pas du tout gérer mon émotion. On n'est pas fait pour ça, Jarry.
Non, on est fait pour autre chose.
Oui, mais il est trop tôt pour en parler.
Non, mais pour des émissions rigolotes.
Ah oui, d'accord, bien sûr. C'était un petit moment gênant. Bref, oublions ça et jouons. Aujourd'hui, puisqu'on a la chance de tenir une vraie journaliste, ce qui ne nous arrive pas souvent, on a décidé de faire un fake news ou pas fake news. Principe simple, à tour de rôle, je vous donne des infos. Vous me dites si c'est une vraie info ou si c'est totalement bidon. On commence avec vous, Claire Chazal. En Pennsylvanie, près de Philadelphie, la police recherche parmi les demandeurs d'asile, quelle que soit leur nationalité, des volontaires pour tester de nouvelles générations de tasers. Ceux qui participeront verront leur demande de régularisation étudiée en priorité. Vrai ou faux ?
Dans une Amérique de Trump, on peut tout imaginer, mais plutôt faux.
Plutôt faux. Le raisonnement était bon. C'était le piège avec Trump. Par contre, la même police en Pennsylvanie recherche des volontaires pour boire de l'alcool. Le but, former les policiers aux procédures à adopter face à des personnes ivres. L'alcool est fourni par la police, mais les volontaires ne seront pas payés pour le boire. Dommage. Eva Rock, c'est à vous. À Toulouse, vendredi dernier, en prévision de manifestations de gilets jaunes, un menuisier a été chargé par une banque de placarder de grands panneaux de bois sur la vitrine pour la protéger. Problème, il a oublié une femme de ménage à l'intérieur et il est parti en week-end. Vrai ou faux ?
Oui. Oui, pourquoi
c'est pas impossible.
Oui, c'est possible.
C'est vrai. Et oui.
La pauvre dame.
Heureusement, la dame prisonnière a crié depuis l'intérieur de la banque. La police a été appelée, le menuisier rappelé et la dame a été libérée tard dans la soirée. Attention, vous jouez toutes les deux, Claire Chazal et Eva Rock, une info, trois propositions. À vous de trouver celle qui est totalement vraie. Au Kazakhstan, au championnat du monde cadet de judo, la jeune Ayana mène son combat dans la catégorie des moins de 52 kilos, mais l'arbitre, intraitable, doit la disqualifier. Pour quelle raison ? 1. Elle a insulté son propre entraîneur et c'est interdit. 2. Elle a avalé volontairement une des lentilles de contact que portait son adversaire et qu'elle avait perdue. Ou 3. Elle a fait tomber son portable sur le tatami de son kimono.
Ah, alors ça s'est produit, mais c'était pas avec une jeune femme, c'était un judoka.
On vous demande pas une dissertation, on vous demande de nous donner la réponse.
Ça peut être l'insulte à son entraîneur, non ?
L'insulte à son entraîneur, pour Claire Chazal, Eva ?
J'aime bien l'histoire de la lentille de contact.
Vous aimez l'histoire de la lentille de contact ? Vous aimez l'histoire de l'insulte à son propre entraîneur ? Vous avez tort, toutes les deux ! Elle a fait tomber son portable sur le tatami. Et oui, c'était fin septembre. En mai dernier, c'était déjà arrivé à un judoka portugais. Là encore, la disqualification a été immédiate. Claire Chazal, avez-vous décelé la fake news ?
Oula.
À Nagakute, au Japon, une fondation de recherche sur la génétique a tenté sans succès de faire naître des zèbres blancs à rayures noires, alors qu'à l'état naturel, ils sont noirs à rayures blanches. Vrai ou faux ?
Bah faux. Je vois pas l'intérêt. Parce qu'on aime bien le noir et rayures blanches, on aime beaucoup les zèbres. Et...
C'est très vrai, on ne voit pas l'intérêt. Il suffit de procéder par élimination pour remporter ce quiz. C'est faux, évidemment. Les zèbres sont noirs et rayures blanches car à l'état fœtal, ils n'ont pas de rayures. Par contre, des chercheurs d'un centre de recherche agricole ont bien peint des bandes blanches sur des vaches noires et il a été démontré que ces dernières ont deux fois moins d'insectes qui se posent sur elles. C'est pour ça que les zèbres, en fait, ont des rayures. C'est pour éviter les insectes. La nature est bien faite. Fascinante nature. Eva Rock, une petite dernière pour la route. Été 2018, Megan vit à Baltimore et elle va se marier pour la deuxième fois. Un enfant est même en route. Petite particularité, son futur époux n'est autre que le DJ qui s'est occupé de son premier mariage. Vrai ou faux ? Une question qui, me signale-t-on, vaut 0 point.
Ah bah oui, parce que ça n'a aucun intérêt. On va dire que oui, c'était le DJ de son mariage.
Exactement. Marc et Meghan ont 23 ans d'écart et si vous voulez suivre au quotidien leur couple, eh bien allez sur leur page Instagram We Are Marc and Meghan et je suis sûr qu'on va tous le faire après l'émission.
Bien sûr.
Qui remporte ce quiz ? C'est Claire Chazal,
oui.
Ça me fait plaisir. Claire Chazal remporte le quiz comme tous nos invités
avant.
C'est ça qui est fort.
C'est fort.
Ah bon GG, on peut dire que vous avez dansé là-dessus dans les surbooms.
Ah oui, avec Bernadette, oui bien sûr.
Bernadette, bien sûr, on l'embrasse, mais entre autres, hein, puisque ce titre vous fait surtout penser à votre première copine.
À Ginette Bédard.
Sacré Ginette. Bref, chaque semaine, son insolente jeunesse nous gifle. Bonjour Angèle Châtelier.
Bonjour Mathine, oui.
Alors déjà qu'avec mon GG, on a du mal à vivre avec notre temps. Là, vous nous entraînez carrément dans le futur, oui. Le futur des concerts.
Oui, exactement, parce que c'est le MAMA Festival à Paris. C'est un rendez-vous pour les pros de la musique. Alors, beaucoup d'apéros en perspective, ça c'est sûr.
Mais ah bah il y a quand même des intangibles, ça,
voilà.
Ça fait plaisir.
Mais c'est aussi et surtout le lieu de nombreuses conférences sur l'industrie musicale. Et parmi elles, celle sur les innovations technologiques dans le domaine du live. Hatsune Miku, est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, perso, non.
Absolument pas.
C'est une artiste qui remplit à ras-bord des centaines de salles partout dans le monde, mais elle n'est pas réelle.
Mais qu'est-ce que c'est que ce truc, Angèle? Si c'est ça l'avenir des concerts, excusez-moi, mais rendez-moi Elvis Presley. Hein.
Hatsune Miku, c'est un hologramme, un pur amas de pixels projetés sur scène. Les hologrammes réinventent complètement le live, puisqu'avant elle, il y a eu Gorillaz, c'est un groupe de rock créé par le chanteur de Blur, Damon Albarn, et le musicien Jamie Hewlett. Sur scène, il n'y avait que des personnages fictifs.
Oui, mais ça, par exemple, notre oreille peut le supporter,
ça,
contrairement
bien.
Au son de précédent.
Effectivement, grâce aux hologrammes, même les morts font des concerts. La chanteuse Maria Callas, Elvis Presley, le rappeur Tupac, ils sont tous revenus à la vie en pixels. Alors, comment réinventer le live? Parce qu'aujourd'hui, on va même plus loin que les hologrammes, Mathieu Noël. On peut maintenant voir des concerts depuis son canapé, grâce à la réalité virtuelle. Et tout ça, ça va, je pense, devenir complètement banal dans quelques années. C'est-à-dire que bientôt, et probablement avec peu de frais, avec un casque VR, on pourra voir tous les concerts qu'on veut. Les musiciens
de son canapé.
Les musiciens.
Oui, mais ça n'a pas d'intérêt. Angèle, vous savez bien que ce qui est intéressant dans le concert, c'est de communier avec la foule.
Alors oui, c'est vrai.
De faire
c'est
un
vrai.
Petit pogo comme dans les années 90.
Vous faites un pogo tout seul sur votre canapé. Vous êtes vintage. Hein,
vous
aujourd'hui.
Faites vraiment
que
des pogos.
Que de mépris dans votre regard, Angèle. C'est toute ma jeunesse. Vous salissez ma jeunesse.
Non mais ça se fait encore en plus les pogos. Alors les musiciens sont déjà nombreux à avoir utilisé ce concept de casque VR. Il y a eu les groupes Imagine Dragons, Panic at the Disco. Et la nouvelle sensation pop plus récemment, c'est Billie Eilish.
Je préférerais toujours Elvis Presley. Mais alors, c'est quand même un budget tout ça.
Ouais, il faut compter entre 200 et 400 euros quand même pour avoir un casque VR. Mais c'est surtout une nouvelle manière de concevoir le business de la musique. Parce que depuis l'effondrement des ventes de disques, le streaming et tout, c'est surtout grâce aux concerts et au prix des places que les artistes touchent de l'argent. Bientôt donc, on pourra monétiser autant les gens qui viendront physiquement faire des pogos comme vous, Mathieu Noël, en concert que ceux qui les verront en réalité virtuelle.
Et est-ce qu'il sera bientôt possible de voir un concert d'un artiste qui n'existe pas et d'une musique qui n'a même pas été créée par de vrais musiciens?
Ouais, c'est vrai qu'au-delà des hologrammes, des albums entiers ont été faits avec une intelligence artificielle. Si on combine les deux, on pourra donc aller voir un concert d'une musique et d'un artiste
pas,
voilà, créé
d'une musique
de toute
qui n'a pas été créée.
Exactement. Alors, il y a quelques années d'ailleurs, une entreprise a créé toute une chanson avec une IA, comme on dit. En gros, ils ont intégré dans un ordi 45 morceaux des Beatles. L'idée, c'était que l'intelligence artificielle fasse comme si elle était elle-même les Beatles pour faire une nouvelle chanson du groupe avec toutes les infos qu'elle avait ingérées.
Ça donnait quoi?
Ça donnait ça.
C'est les Beatles qui auraient pris un Frank Zane quand même. Hein.
Un Xanax.
Ils ont pris les Beatles. Ils ont pris un coup de vieux.
Hein.
François Gabart, est-ce que c'est peut-être une question un peu bête, mais sur un bateau, dans une course, j'entends, est-ce qu'on a le temps d'écouter de la musique ou pas du tout? C'est quelque chose qui déconcentre.
Si, ouais, moi j'écoute beaucoup de musique, mais en fait parce que je travaille avec de la musique, ça m'aide à me concentrer. Donc si je dois faire une activité qui nécessite de la concentration, je vais écouter de la musique.
Mais avec des écouteurs ou tout le monde
est sur un bateau? Non, par contre, sans écouteurs, parce que on écoute en même temps le bateau, ça me coupe du bateau si je mets des écouteurs. Donc c'est vraiment dans l'ambiance générale. Quoi.
Et quel genre de musique?
Vraiment tout. J'écoute de tout. Ouais.
Bobby Lapointe.
Pourquoi vous pensez à Bobby Lapointe?
Je ne sais pas, une musique qui n'est pas du tout entraînante. Je cherchais un exemple de musique. Dario Moreno, j'aurais pu dire aussi.
Non, on pourrait écouter Chantal du Goya. Non, on aurait pu écouter du classique ou du jazz sur un bateau.
Ouais, alors j'écoute beaucoup de choses. J'écoute pas mal de musique française. J'aime bien la musique française. Et quand on est en solitaire, j'écoute peut-être encore plus de musique française à parole. Du Brassens, du Brel, enfin des choses où le texte a vraiment du poids. Je pense tout simplement parce qu'on est tout seul et qu'on parle avec personne, donc on est content quelque part d'avoir un pseudo, pas un échange, mais enfin voilà, de suivre un peu quelqu'un.
Moi, je pense que pour votre prochaine course, à mon avis, elle peut vous apporter beaucoup. Eh oui, on est sorti la grand voile. Ça vous porte chance. Merci, Angèle Châtelier. Vous êtes l'ambassadeur de la campagne de l'association Mettez du Rouge, pour laquelle vous chantez. Oh, lipstick pour les hommes. Oh, lipstick pour les femmes. On rappelle ce chiffre.
Et oui, c'est vous qui chantez.
C'est vous qui chantez, Charles Darling. Car vous avez un beau brin de voix, il faut bien le dire. Vous avez d'ailleurs chanté, vous avez sorti un album.
Ah oui, en 2012.
Ça avait marché ?
Ouais, non, pas bien.
Vous chantez.
Mais quand même, j'ai fait une tournée et tout.
C'est vrai ?
Ah oui, j'ai adoré, mais je continue, hein, je chante de temps en temps.
Ah, il y aura peut-être un nouvel album alors ?
Ah ben, je sais pas. En fait, aujourd'hui, c'est pas tellement les albums qui comptent, c'est plutôt les concerts. Donc moi, depuis, j'ai fait d'autres concerts. C'est merveilleux, les concerts. C'est là qu'on travaille bien avec les musiciens. Parce que les albums, tout le monde se met en studio, ils mettent leurs écouteurs et puis chacun fait son truc dans son coin.
Vous préférez la scène, vous êtes un homme de scène.
Ah voilà, c'est ça.
Alors, on revient sur ces chiffres qui sont absolument incroyables. Toutes les 6 minutes se produit un viol ou une tentative de viol, pas en Libye, ici, en France. Quand vous avez découvert ce chiffre, Charles Berling, vous dites que votre cerveau n'a pas voulu ou n'a pas pu le croire. C'était là, c'est un chiffre officiel.
Oui, c'est très affolant. Ça fait l'espace de... vous passez deux chansons et puis il y a une agression sexuelle, un viol qui se passe. Donc, c'est-à-dire, ça en dit long sur l'état calamiteux des relations entre hommes et femmes aussi. C'est pourquoi cette campagne qui propose aux hommes de mettre du rouge à lèvres, c'est-à-dire qu'en plus ce n'est pas un sujet qui concerne que les femmes, c'est-à-dire ça concerne les hommes et les femmes, et donc comment les hommes peuvent dire je me mets du rouge à lèvres parce que voilà, je ne veux pas accepter ça venant de mes copains ou de moi-même. Ou de... Non, cette violence-là n'est pas possible, il faut se poser la question profondément.
Alors l'idée c'est donc effectivement d'inclure les hommes dans ce débat sur les violences faites aux femmes, et c'est aussi d'inciter les femmes victimes à en parler sans honte, en démontrant que les hommes sont avec elles en fait. Et c'est vrai que nous, en tant qu'hommes, j'ai envie de dire de bonne volonté, on a l'impression qu'il y a une progression de ce côté-là, que les femmes parlent plus facilement de ça. Eh bien non, le chiffre est dingue aussi, c'est seulement 10% des femmes agressées qui déposent plainte aujourd'hui.
Oui, tout à fait, mais ça fait partie du féminisme de base, c'est-à-dire de comment on doit changer profondément la société pour que l'égalité, pour que la parité, pour que ce rapport homme-femme change profondément et qu'il arrête d'être justement un rapport de pouvoir, un rapport de maltraitance et ainsi de suite. Donc, il faut dire les choses parce que déjà, il faut dire que c'est grave et qu'on ne peut pas l'accepter, qu'on soit un homme ou une femme.
Notre invité Charles Berling est l'ambassadeur de cette campagne de l'association Mettez du Rouge, une campagne qui insiste sur le fait qu'il faut en parler entre nous, les hommes. C'est important de nous inclure dans cette cause.
Et ça va bien avec votre émission parce que mettre du rouge, c'est joyeux, c'est festif.
C'est vrai.
Mais qu'un homme mette du rouge à lèvres, c'est nouveau qu'on ne le fait plus. Regardez les portraits de Louis XIV.
C'est vrai.
Talons hauts, cheveux longs, rouge à lèvres. C'est-à-dire, l'image de l'homme, elle a beaucoup évolué dans l'histoire. Et donc là, on retrouve un geste extrêmement festif, comme votre émission, pour dire on peut aussi être joyeux, mais on peut, en étant joyeux, avoir un tout petit peu conscience des choses et essayer de lutter contre... certaines choses qui sont plus acceptables.
Ah, il a bien vendu notre émission. Ouais. Eva.
Pourquoi vous avez choisi ce titre, Lipstick, de Daniel Balavoine ?
Alors, c'est pas moi.
Devine,
moi,
Lipstick, c'est... ça veut dire rouge à lèvres.
Moi
j'avais,
c'est bête, hein.
J'avais déjà participé.
Il est idiot.
Mais
va-t-on
m'écouter ?
Mais oui.
J'avais déjà participé à la campagne il y a quelques années. Puis là, ils m'ont demandé. Avec Christophe Van Huffel, qui est un magnifique musicien, qui a beaucoup travaillé avec le chanteur Christophe, et qui lui a fait les arrangements. On a travaillé pour que ça soit un peu l'emblème de cette campagne-là.
Avec des paroles qui sont quand même très révélatrices.
Extraordinaire,
hein.
Vraiment.
Lipstick pour les hommes, lipstick pour les femmes. Hein. Oh, lipstick pour les hommes. Oh, lipstick pour les femmes.
Parler des violences faites aux femmes aussi entre hommes, donc c'est le message. Et vous parlez encore entre hommes. Ils parlent entre hommes, c'est une nouvelle race entre la femme et l'homme, l'homme. Ils parlent entre hommes. Dans la pièce qui est votre autre actualité, Charles Berling, après avoir triomphé la saison dernière, vous reprenez depuis quelques semaines aux côtés de Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager la célèbre pièce de Yasmina Reza, Art, pièce écrite en 94, il y a donc 25 ans. Elle a été traduite dans une quarantaine de langues, jouée dans le monde entier. Pour un comédien, c'est vraiment un bijou. Cette pièce, j'ai l'impression.
Ah oui, c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire, je pense que ça va rester un classique. Après, ça deviendra un classique, mais c'est la pièce, une des pièces françaises, peut-être la pièce française la plus jouée dans le monde. mais parce qu'elle a, elle a des ingrédients qui sont absolument incontournables en ce qui concerne l'art dramatique, c'est-à-dire à la fois elle s'appuie sur quelque chose d'extrêmement primaire, sauvage, qui nous concerne tous les êtres humains dans nos relations, soit d'amitié, soit d'amour, et en même temps elle, elle a une sophistication fantastique, donc le public jubile. Et effrayé en même temps qu'il est, il jubile, et ça provoque des beaucoup de rires, mais ça, c'est, ça, ça s'appuie sur un drame que tout le monde reconnaît.
On rappelle le pitch, comme on dit aujourd'hui, de cette pièce. Trois hommes, amis depuis 30 ans, un jour l'un d'eux achète un tableau entièrement blanc à 30 000 euros.
Non, pas entièrement blanc.
Ah, non, pardon, il n'est pas entièrement blanc, mais il a l'air, en tout cas, si on regarde de près, ah bah oui, sinon, on peut voir des toutes petites bandes, mais il est quand même très très blanc ce tableau.
Ne vous
c'est
ah, ça y est,
on commence. Bah, on commence, excuse-moi, mais bah, mettre 30 000 boules là-dedans, excusez-moi, ouais. Mais c'est votre personnage qui trouve que c'est un peu oui, cher pour quelque chose d'assez blanc finalement, oui, et leur amitié va être ébranlée. Et ce qui est fort, c'est effectivement, c'est une comédie, mais il y a des éléments, c'est le drame aussi. Donc du coup, c'est ça qui fonctionne.
C'est une histoire d'amitié, c'est une affaire de goût, et c'est à un moment donné où, au fond, j'avais joué une pièce avec Édouard Baird qui s'appelait Cravate Club, où il y avait deux amis, et il y en a un qui sortait de la sphère d'influence de l'autre. Et c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a deux amis, et puis il y en a un qui ne comprend pas où il est allé pêcher ces goûts-là. Et donc, à partir de là, c'est une histoire de possessivité, d'amitié, d'amour, de... Bon, et puis au milieu, il y a Jean-Pierre Daroussin qui joue Yvan, qui amène le doute, qui est un personnage qui ne veut pas trancher, qui ne veut pas, lui, prendre position. Donc, c'est forcément très drôle, puisqu'il va essayer de relier de pôles absolument irréconciliables.
Alain Sirou, je vois que vous êtes prêt, mais je sens Jarry un peu gêné. Que se passe-t-il, Jarry ?
Avant de commencer, est-ce que vous pouvez serrer les jambes, monsieur ? Je vois toute la vaisselle.
Oui, croisez les jambes, ça sera plus facile pour Jarry de se concentrer sur le fond de votre papier. Chronique alléchante, autant qu'intrigante aujourd'hui, puisque vous nous parlez d'une grosse horloge.
Oui.
Rien de votre ouais, lassif.
Mais non, mais c'est parce qu'Axel a fait appel au cerveau reptilien de, oui, Jarry, et moi je fais appel à son cerveau sensible, à sa perception d'homo sapiens, c'est-à-dire dans l'humanité et dans le temps, dans la distance du temps.
Ouais, pour, là, c'est déjà compliqué.
Alors moi j'adore. Hein.
Vous adorez.
Hein. Ah, je trouve ça très sexy.
Pour vous parler de quelque chose qui est en cours de construction aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, c'est une horloge qu'on appelle l'horloge du long maintenant. Et qui, à leur titre bien sûr... qui a aussi pour objectif de construire quelque chose qui dure 10 000 ans. Alors je vous rappelle que Khéops, c'est 4500 ans. 10 000 ans, c'est quelque chose dont on n'a pas la perception en termes d'humanité. Et l'idée, c'est d'avoir une horloge qui fasse un tic par an, qui sonne qui sonne chaque siècle. Et puis, on se retrouve autour chaque millénaire. Donc, comment on fabrique ça ? En fabriquant quelque chose qui n'a pas besoin de l'homme, qui n'a pas besoin d'informatique, qui va être construit et qui est en cours de construction dans une falaise au Texas, qui va bénéficier en fait de l'énergie
solaire,
du soleil et du contraste qu'il y a entre l'extérieur et l'intérieur de la grotte, en quelque sorte. Donc, c'est en utilisant ces variations de température que... On va faire bouger cette horloge qui est construite à partir de matériaux extrêmement résistants, du saphir, du titane, etc., etc. Et par des gens qui sont, je dirais, des ingénieurs qui ont construit les ordinateurs les plus puissants du monde au XXe siècle et qui s'amusent, entre guillemets, à construire l'ordinateur le plus lent et le plus mécanique qui soit. Donc,
Il n'y a pas un pet d'électronique dedans.
Absolument
pas. Donc,
ça
ne peut pas bugger. En fait.
Absolument pas. Bah, ça, on n'en sait rien parce qu'il va falloir attendre 10 000 ans.
Mais,
mais l'idée, c'est ça. Et tout le monde s'organise pour ça. Et ce que j'adore, c'est qu'on a déjà construit et imaginé le carillon qui est fabriqué par Brian Eno. Vous allez entendre ce qu'on entendrait.
Putain, dans 10 000 ans, on l'aura complètement oublié. Les mecs qui sont à côté, ils auront construit leur pavillon. Ils seront flippés, quoi, quand t'entends ça.
Donc, l'idée, c'est ça. C'est finalement des carillons qui sonnent de temps en temps, sur un temps long. Brian Eno est un musicien britannique qui s'inspire aussi de la question de la temporalité. Qu'est-ce que c'est que le temps ? Et 10 000 ans, ça a un sens, parce que 10 000 ans, c'est l'histoire de l'humanité. L'agriculture démarre il y a 10 000 ans.
Oui.
La fin de la glaciation, c'est 10 000 ans. Et se projeter dans 10 000 ans, c'est aussi de se donner un défi qui est tout à fait extraordinaire, qui est Est-ce que l'on peut penser à long terme alors qu'aujourd'hui on a le nez dans le mur? Et c'est vrai que avoir le nez dans le mur, ça ne nous aide pas vraiment à avoir des perspectives.
Non, très intéressantes. Non, là c'est carrément une série. Voilà.
Donc, je dirais que c'est ça qui est en cours de construction. C'est financé par Jeff Bezos en particulier et par un certain nombre de gens qui veulent qu'on essaie de se décaler. Alors, bien sûr, il y a un défi technique, technologique, scientifique, si on peut dire, mais c'est surtout une projection sur le futur, et on a besoin de cette projection sur le futur, parce que l'an 2000, c'était, je dirais, le futur quand on est né, en tout cas pour moi. Aujourd'hui, si on donne une date du futur, on ne sait pas, on est confronté à des défis monstrueux qui sont le climat, la biodiversité, etc., et même l'homme. Et 10 000 ans, c'est un horizon temporel qui fait rêver. Pour
le problème, Alain, c'est que dans 10 000 ans, on sera peut-être plus sur Terre. L'humanité aura peut-être migré.
Il n'y aura peut-être même plus de Terre du tout.
Il n'y aura peut-être même plus de Terre. Il ne restera que cette horloge.
Mais ça sonnera toujours.
Ça sonnera toujours.
En tout cas, si on ne l'a pas détruit.
Est-ce que nous avons le temps? Oui, nous avons le temps, Alain, pour écouter la question vache de l'autre chroniqueur, Axel de Tarlet. On vous écoute.
Moi, je voulais vous parler d'une autre horloge bien plus connue. Il s'agit de... Moi, je suis un peu bête, on parle d'horloge, je pense à l'horloge parlante. Alors, horloge parlante, saviez-vous que c'était une invention française? Le 4 février 1933.
C'est pas une question, c'est un exposé,
oui,
ça.
Oui, non, mais attendez, il va y avoir une question au bout de mon exposé. inventé par le professeur Ernest Esclangon. Qui était-il et pourquoi a-t-il inventé l'horloge parlante? Il y a une raison très précise, le 4 février 1933.
Il avait perdu sa montre.
Ça lui était d'une utilité à lui.
Pas loin, il avait perdu sa montre.
Non, il voulait que tout le monde soit à la même heure, surtout.
Pas loin. Eh bien, non, ce qui se passe, c'est que c'était
téléphone.
C'était le patron de l'Observatoire de Paris. Or, à l'époque, c'était l'Observatoire de Paris qui donnait l'heure. Et il en avait ras-le-bol parce qu'il n'avait qu'une ligne téléphonique qui était sans arrêt occupée par tous les quidam qui appelaient bonjour, l'Observatoire, quelle heure est-il? Et donc, il n'avait pas de téléphone à cause de tous les gens qui téléphonaient. Et donc, il a créé cette ligne spéciale qui est devenue l'horloge parlante.
Et c'est une actrice qui a été la première voix, une femme du cinéma.
Oui. Bon.
Emmanuel Duteil, vous nous entraînez aujourd'hui au Japon. Fascinant pays du soleil levant, aux traditions mille bref, comme d'habitude, pour nous parler d'un potentiel rebondissement dans l'affaire Carlos Ghosn, ancien patron de Renault-Nissan. Carlos Ghosn, qui a été beaucoup critiqué ces derniers mois, même humainement, certains ont dit que c'était un patron odieux, très directif.
Vous dites encore une fois, je te jure, et je vous déculpe les yeux avec une crème hydratante et des pinces, que même à Bavoie, ils en grattera le cucu.
Bon, rien de bien choquant, c'est du management, quoi. Mais là, Emmanuel, un livre sort, il devrait faire du bruit.
Oui, alors ce livre, il est là, il s'appelle Le Piège, il a été écrit par Bertie Bayard du Figaro et Emmanuel Egloff, qui est également journaliste auto au Figaro. Et si ça s'appelle Le Piège, c'est que justement, il démonte la théorie du complot. Et pour eux, tout ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est une histoire assez vieille où tout avait été préparé pour que finalement Carlos Ghosn tombe dans un piège. Alors pourquoi il serait tombé dans un piège? Eh bien tout simplement parce qu'il en a trop voulu à un moment. Alors on va remonter au tout début de l'histoire, parce que c'est ça qui est passionnant dans ce livre. Et le tout début de l'histoire, c'est le mariage entre Renault Nissan. Et Nissan. Mmh. Merci de suivre, ça marche aussi bien que l'euro million, ma chronique.
Mais pas du tout, ça aurait pu être le mariage, son mariage qui avait été critiqué à Versailles.
Le début de l'histoire. Donc le mariage entre Renault et Nissan. Ce qu'on apprend dans ce livre, c'est que, alors je sais pas si vous vous souvenez, mais c'est Renault qui était allé sauver Nissan, qui était en faillite.
Le chanteur?
En même temps, c'est assez drôle ce que vous dites, parce que Renault finalement n'était pas plus en forme que le Renault chanteur avant d'avoir acheté Nissan. Parce que ce qu'on apprend dans le livre, c'est que Nissan était certes en faillite, mais il savait faire des voitures. Renault avait un petit peu de sous, mais ne savait plus faire des voitures depuis des années. La régie était mal dirigée. Donc, c'est un mariage entre deux personnes qui ne vont pas super bien. Mais malgré tout, c'est quand même Renault qui rachète Nissan. Et ça, les Japonais ne l'ont jamais digéré, d'être dirigé par des Français qui, a priori, ne savaient plus trop bien faire des voitures. Et donc, c'est un livre passionnant qui revient sur les coulisses de tout cela.
Mais alors, pourquoi c'est si passionnant?
Déjà, parce qu'il y a un héros. C'est extraordinaire, l'histoire de Carlos Ghosn, cet homme qui est né quasiment dans tous les pays, qui est un citoyen du monde, qui est aussi bien libanais, brésilien que français. Qui
vous a parlez de Depardieu là?
Voilà, exactement, il n'est pas passé par la Russie lui, Carlos Ghosn. Et après, j'allais dire une bêtise, j'allais dire qu'il payait ses impôts en France, Carlos Ghosn, mais ça n'en sait rien. Mais c'est compliqué.
Un abruti s'il paye ses impôts en France.
Oui, ça serait quand même étonnant.
Oui, surtout vu ce qu'il gagnait, mais a priori il en payait quand même un poil en France. Bon, passons. Donc le héros, comme quoi ça vous passionne, vous voyez, si vous me coupez tant, et vous avez raison.
J'ai compris le message.
Finement envoyé.
Donnez-moi vos 3 points et ça ira bien. Donc, le héros. Non mais vraiment, et c'est en ça où c'est vraiment un polar, parce que l'histoire et la montée de Carlos Ghosn au sein de cette alliance Renault-Nissan qui l'a façonné, c'est vraiment assez impressionnant. C'est un quasi dieu vivant dans ce livre, et on est entre adulation mais également crainte. On voit qu'il a mis à terre tous ses opposants. Il y a une scène où on raconte notamment un conseil d'administration chez Renault. Alors c'est une grande table en U. Il se mettait au bout et c'était un espèce de cénacle où personne n'osait contredire Carlos Ghosn. Donc c'est vraiment lui qui a tout créé dans cette entreprise.
Mais alors comment il est tombé s'il n'avait plus d'opposants ? Ça, je comprends pas.
Eh bien parce que, vous savez, quand on est un peu autocrate, quand on pense qu'il ne peut rien nous arriver, on ne fait plus trop attention. Donc on commence à faire des erreurs. Et on en revient au fameux mariage. Merci de suivre toujours, Mathieu.
Le mariage, celui-ci, à Versailles, le mariage de Carlos Ghosn.
À un moment, c'est vrai que, semble-t-il, et les auteurs le reconnaissent, il a un tout petit peu confondu la caisse de Nissan avec sa caisse personnelle. Et je ne parle pas de voiture, hein, je parle d'argent.
C'était pas la meilleure de... mais il s'enflamme. C'est typique de l'humoriste.
J'avais écrit une chronique à cause de vous, je ne suis pas du tout, donc il faut bien que j'essaye.
Non, mais monsieur ne veut plus que je le coupe, alors j'aurais pu lui venir en aide sur sa vanne pourrie, mais tant pis.
Donc, il a confondu sa caisse personnelle avec la caisse de Nissan, ça lui a permis d'acheter des maisons, ça lui a permis de faire venir des potes au festival de Rio ou au festival de Cannes ou à son mariage. Et donc, à un moment, il a considéré qu'il n'avait plus d'opposants dans la maison. Et il s'est dit, c'est le moment pour faire le coup final. Jusque-là, il s'était pacsé entre Renault et Nissan. Lui, ce qu'il voulait, c'est fusionner, se marier vraiment totalement et que vraiment, il en devienne le chef incontesté et indéboulonnable. Et ça, les Japonais, parce qu'ils se souvenaient que le mariage avait été un peu foireux et que le pax avait été un peu foireux, ils se sont dit « Mon coco, tu vas pas nous avoir ». Et c'est là où il y a ce piège qui se referme sur lui parce qu'il avait semé tous ces petits cailloux qui lui posaient problème. Le mariage...
Ils avaient monté un dossier contre lui,
ils avaient monté une sorte de dossier, et c'est là où ça se referme sur lui parce qu'il a voulu avoir trop de pouvoir. C'est donc un vrai polar qui se termine comme ça, donc je vous conseille.
Ah oui, rappelez-nous le titre. Et...
Alors ça s'appelle, je le montre correctement, je ne sais pas trop bien où est la caméra, merci d'avoir laissé là.
Europe1.fr.
Bertie Bayard et Emmanuel Egloff qui ont écrit Le Piège, c'est aux éditions.
Il a l'air trop gentil sur la photo.
Oui, c'est vrai que la photo.
On sent que c'est pas
on dirait un crapaud.
Bon, quand ils font sa description physique, on ne peut pas dire qu'il l'appelle Brad Pitt dans le livre.
Merci beaucoup, Emmanuel Dutheil. Vos chroniques, aura-t-elle séduit notre invité Pef?
Ah, oh là là, nous sommes faits l'un pour l'autre. Je veux un enfant de toi.
Oh, visiblement, oui, ça lui a bien plu, hein, visiblement. Quel regard vous portez sur l'actualité quand vous êtes seul sur un bateau à l'autre bout du monde? Vous suivez, vous êtes complètement déconnecté?
Alors, on prend. Ouais, j'aime bien suivre parce que c'est toujours. J'ai des petits récaps. Des petits mails comme ça avec un peu l'actu du jour, et en fait on la suit avec vachement de recul, et c'est intéressant parce que justement on a un petit peu ce recul là qui nous permet de voir des fois des choses où on se dit mais c'est n'importe quoi,
ouais.
Et donc voilà, et donc c'est vrai que des fois on est un peu en décalage et en même temps avec une perspective qui peut être super intéressante.
Quand je vous entends, quand je vois votre parcours, formation ingénieur, je me dis qu'il n'y a pas grand chose qui vous sépare d'un Thomas Pesquet par exemple. Est-ce que vous auriez pu devenir astronaute? On a l'impression que quand vous partez sur un bateau, vous volez, hein, vous avez quasiment 100 km/h sur l'eau, il y a un tel défi technique, on a l'impression que c'est proche en fait.
Alors j'ai pas du tout la prétention de penser que j'aurais pu être astronaute, mais par contre c'est vrai que on a navigué avec Thomas là, il y a quelques jours, la semaine dernière, lundi dernier, et c'est vrai que c'est hyper intéressant parce qu'en fait il y a plein de points communs entre ces missions, aller sur l'ISS et dans la préparation, dans tout l'entraînement qu'on peut avoir pour faire ce genre de mission versus nous, la préparation de nos courses. Et c'est hyper intéressant et c'est quelque chose qui me fascine, mais c'est vrai que pareil, je pense qu'il faut une passion. Je parlais des étoiles tout à l'heure, je suis assez fasciné par le ciel, mais de là à aller dans l'espace, je sais pas si... Enfin, en tout cas, non, j'ai pas cette passion telle... comme il l'a et comme moi, je peux avoir cette passion pour la mer.
François Gabart, vous préparez votre départ avec votre co-skipper qui nous a rejoint en studio. Guénolé Gainé, bonjour.
Bonjour.
J'ai bien prononcé votre nom déjà, première étape.
Ouais, très bien.
Guénolé Gainé. Je suis très heureux de vous rencontrer car s'il y a une personne qui peut répondre à la question qu'on se pose tous, c'est vous. Cette question, c'est évidemment...
C'est pas pour moi, mais il est célibataire?
Non, et bien ça, on sait s'il est célibataire. Non, la question qu'on se pose, c'est... François Gabart est-il vraiment aussi parfait qu'il en a l'air? Parce qu'il est un peu agaçant. Est-ce que vous pouvez pas nous lâcher 2-3 dossiers sur lui?
C'est vrai qu'il est... Il est assez parfait. Hein.
Non, je l'ai payé. Hein.
J'ai des dossiers. Alors, les dossiers.
Déjà, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment on forme... Enfin, pour moi, alors, François Gabart, c'est le dieu de la voile. Comment il vous a recruté pour être son binôme, quoi? C'est incroyable.
Ouais, c'est clair. C'est vrai que j'ai trouvé ça assez incroyable. On se connaît depuis quelques années, mais de façon assez rapide. On a navigué sur le même genre de bateau. Moi, j'étais sur un autre trimaran qui s'appelle IDEC avec Francis Joyon. Et on a fait des courses donc, en tant que concurrent. Et puis, on a eu l'occasion d'échanger rapidement depuis quelques années. Et c'est vrai que ça s'est bien goupillé en fait, pour qu'on travaille ensemble cette année pour préparer cette course. Et voilà, François m'a appelé, donc j'étais un peu surpris au début, puis très vite, j'avais très envie de faire ce projet avec lui, donc ça s'est fait assez rapidement.
Alors comment se passe ? Vous vous entraînez déjà à cohabiter ou vous allez suffisamment cohabiter ensemble pendant
un certain nombre de semaines ? On a pris un studio, pris et, voilà, 9 mètres carrés, on est 3 ce soir, on va rester la semaine entière à Paris.
Il est comment François Gabart sur un bateau ? Il est, quand on est enfermé avec lui dans un bateau ?
Cette question est
non,
un
cette
peu...
question n'est pas oui. du tout. Elle n'est non, pas non, du tout non, non. Je voulais juste savoir s'il était serein, détendu, anxieux, stressant pour l'autre ou au contraire à tout prendre sur lui.
Alors déjà, on s'entraîne régulièrement, mais c'est vrai qu'on a, pour l'instant, on a fait que des naves assez courtes. En fait, c'est des bateaux qui vont tellement vite qu'en 24 heures, on a déjà fait le tour de. Enfin, on est allé en Irlande, on est revenu, quoi. Donc.
C'est dingue, mais d'accord.
Donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas vu sur du long terme, mais non.
Mais
pour
vous pensez que ça va bien coller ?
Ouais. Non, c'est super agréable, on s'amuse beaucoup à naviguer ensemble, il y a une super équipe qui nous entoure, on découvre aussi un bateau qui est formidable, donc il y a vraiment une curiosité qu'on partage sur la découverte du bateau, des réglages et puis de cette navigation en volant aussi qui est géniale, donc pour l'instant c'est que du bonheur.
Dans une course aussi exigeante que celle que vous allez tenter, vos discussions elles sont essentiellement techniques toute la journée ou bien vous pouvez vous permettre de commenter l'actualité ou même de vous faire des vannes ?
Alors il y a beaucoup de techniques forcément et par contre sur une course aussi longue on sait bien que c'est hyper important de partager d'autres choses et notamment on a un gros dossier qui est
musique.
Sur la musique un peu.
Et quel est l'autre dossier ?
L'autre dossier c'est la nourriture, c'est vrai que souvent en milieu confiné comme ça la nourriture c'est quelque chose de très très important. On met l'accent là-dessus parce qu'on essaye de faire des choses un petit peu différentes là-dessus pour faire évoluer un petit peu notre mode de vie. Essayer d'avoir moins de plastique à bord dans l'avitaillement, essayer de faire germer des graines, faire pousser des champignons. On a pas mal de petits dossiers comme ça. Essayer des nouveaux produits aussi pour l'hygiène, tout ce qui est dentifrice, déodorant, brosse à dents. Il y a beaucoup de choses sympas qu'on va essayer de tester.
Mais enfin, quand vous faites une course comme ça, vous n'avez pas le temps, de, ne serait-ce que de cuisiner, au sens où vous n'avez pas le temps de faire des préparations culinaires.
Alors, la super opportunité sur cette course, c'est qu'on a un médiaman qui est super, qui s'appelle Jérémy Eloi, et qui est très motivé pour s'occuper de cet avitaillement un peu alternatif. Et il a le droit, en plus, il a le droit de faire que ça. Donc, on va
mais ça
en profiter.
Va plus être une course, ça va être une croisière du pognon, votre truc. Alors mon cher François Gabart, je vous sens anxieux, non pas pour la course Brest-Atlantique, une formalité pour vous, mais pour le quiz qui vous attend contre Eva. Il s'agit d'un quiz thématisé, le thème est déterminé en fonction de la personnalité de notre invité, et comme nous recevons aujourd'hui un des plus grands spécialistes mondiaux des bateaux, j'ai eu ce qu'on peut appeler de la pitié pour Eva, un quiz sur les avions. C'est un vrai faux.
Il est ingénieur, François Gabart.
Oui, bah justement.
Et moi...
Vous n'êtes pas ingénieur, ça c'est sûr, ça on peut le dire. C'est un vrai faux, une bonne réponse, un point, c'est parti. François Gabart, il y a actuellement un avion américain qui vole grâce à un réacteur nucléaire. Vrai ou faux ?
Faux.
C'est faux, vous avez raison, mais ça a existé. Entre 1955 et 1965, il s'appelait le Convair X6. Cet avion a volé 47 fois. Le petit souci, c'est qu'il fallait refroidir le réacteur nucléaire, même quand l'avion était au sol et qu'il ne fonctionnait pas. Donc, à part ça, ça marchait pas plus de mal, pas mal comme concept. Eva Rock, un avion qui vole à Mach 3 ne vole pas forcément à la même vitesse qu'un autre avion qui vole lui aussi à Mach 3. Vrai ou faux ? J'en appelle à votre sens de la logique.
Oui, je dirais oui.
Un avion qui vole à Mach 3 ne vole pas forcément à la même vitesse qu'un autre avion qui vole lui aussi à Mach 3.
Vous êtes chiant, moi. Si la vitesse est Mach 3, c'est Mach 3 pour tout le monde.
Si la vitesse est Mach 3,
mais en revanche... Voilà. Bon, ok.
Vous dites quoi ? C'est quoi votre réponse ?
Je sais plus, on m'avait embrouillé.
Vous pouvez répéter la question ?
C'était quoi ça ? Négatif la
question ? Un avion qui vole à Mach 3 ne vole pas forcément à la même vitesse qu'un autre avion qui vole lui aussi à Mach 3.
Si, il vole à la même vitesse.
Et donc la réponse à la question est quoi ?
Donc
c'est faux ?
Oui.
Eh bien c'est vrai ! Un Mach... C'est la vitesse du son, mais c'est une unité de mesure qui dépend de la température et de l'altitude. Ainsi, un Mach au niveau de la mer, c'est environ 340 mètres par seconde, alors qu'un Mach à 20 000 mètres d'altitude, c'est 295 mètres par seconde.
C'est ce que je n'arrivais pas à expliquer, mais que je comprenais parfaitement. C'est une logique.
Vous avez dit exactement l'inverse. On demandera à Alain Sirot de nous expliquer. Attention, une question, trois propositions. Vous répondez tous les deux. En 1988, Yvan Lester McGuire a eu une mort assez ridicule. Laquelle ? 1. Il a filmé un saut en parachute, mais il avait oublié le sien. 2. Il était ivre au travail, ce qui n'est pas une bonne idée quand on est agent de maintenance aérien. Il s'est endormi dans le réacteur d'un Boeing. Ou 3. Il est mort de rire en regardant « Y a-t-il un pilote dans l'avion ?» On est en 88, ça se tient.
1 ou 2.
Vous dites quoi, François?
Il faut trancher. Il faut trancher.
Moi, je dirais mort dans un réacteur.
Ouais, deux aussi.
Oh, vous avez faux tous les deux. Il a filmé un saut en parachute. Je vous l'ai raconté en intégralité. C'était en 1988. Il était équipé d'un lourd équipement VHS pour filmer le saut en parachute. Instructeur expérimenté, il avait déjà fait deux sauts dans la journée. Au deuxième, il avait déjà oublié son parachute avant qu'on lui fasse remarquer. Au troisième aussi, mais là, personne ne s'en est aperçu, sauf Yvan Lester, mais un poil trop tard. Eva Rock sur la compagnie aérienne colombienne Avianca, jusqu'en 1978, une petite cabine était spécialement réservée pour consommer de la cocaïne. Vrai ou faux ?
Pff, n'importe quoi, c'est faux.
C'est faux. Par contre, petite info en plus, avant, quand il était autorisé encore de fumer dans les avions, les traces de nicotine à l'extérieur du fuselage aidaient à détecter les fissures.
Ah, quelle horreur !
Ben oui, mais en même temps, c'était mieux, du coup, on voyait mieux les fissures.
Oui, non, mais enfin...
Attention, cette question va vous départager. François Gabart, pour tester la résistance des avions, s'ils percutent un volatile, on utilise des canons à poulet, vrai ou faux ?
Vrai.
C'est vrai, les poulets, bah oui, ça bosse chez Boeing.
Quoi,
les poulets sont projetés à 600 km/h sur la carlingue. À Toulouse notamment, on trouve un des canons à poulets les plus performants d'Europe.
Je l'ai vu en vrai.
Bah, Jean-Philippe,
je l'ai vu en vrai.
C'est ça aussi le journaliste d'investigation. C'est-à-dire que t'as des mecs qui vont en Syrie, lui, il va avoir le canon à poulet.
Là,
à Toulouse.
Là n'empêche pas l'autre. Mais non, mais en fait, c'est pour les calculs des ingénieurs, ce qui se rapproche le plus d'un vrai volatile dans les airs, et ben c'est un vrai poulet.
Mais on rassure quand même la Fondation Brigitte Bardot, les poulets utilisés dans le canon à poulet sont déjà morts.
Non, ils sont chloroformés.
Non, c'est vrai.
Bah oui, pour la précision des calculs, justement.
Mais c'est horrible.
Bah oui, demandez-moi quand vous savez pas.
Ah bah parce que là, la personne qui m'avait préparé le quiz, Sébastien Bordeneuf, pour ne pas le citer, m'avait mis que les poulets étaient déjà morts.
Ils sont chloroformés.
Oui, c'est pas terrible non plus. Et qui remporte le quiz ? Évidemment, c'est François Gabart.
Ah oui, champion. Ça, vous êtes content. Hein.
Bah oui, je suis content, ouais. Évidemment. On part en Russie. Retrouvez le camarade Pulchov. Bonjour Olivier Pouls.
Nazdarovia.
Vous savez ce que ça veut dire, Nazdarovia ?
Vous allez me le dire, à votre santé.
Ça m'étonne
que je connais
bien. Oui, parce que vous êtes plus apéro qu'autre chose. Olivier, on sait votre ouverture d'esprit et vos mœurs à géométrie variable. Ça devrait donc bien se passer avec Jarry. Un petit message codé à son attention avant de démarrer la recette.
Je butine telle une abeille. Je vais d'un pot à l'autre, là, voyez-vous.
Je crois que le message est passé. Aujourd'hui, pour la première fois dans Délices in Extremis, les véganes l'attendaient avec impatience, Olivier. La recette du bœuf stroganoff.
Oui, et bœuf stroganoff, parce que je rends hommage au spectacle de Jarry qui en parle d'ailleurs.
Exactement. J'ai une petite blague que les gens découvriront dans le spectacle sur le bœuf stroganoff.
Teaser.
Et alors, est-ce que vous le faites, le bœuf stroganoff ?
Alors oui. Moi, je l'achète, mais j'ai un petit truc pour le réussir.
Ah, mais non, vous ne le faites pas, vous l'achetez alors.
Oui, je l'achète. Ah, voilà, oui. C'était la fin de la vanne.
Olivier Pouls a grillé la vanne et je l'ai vu venir parce que je la connaissais.
Mais c'est génial.
C'était un très beau moment de radio. Bravo, Olivier.
Et je vais venir dans vos restaurants, je vais vous pourrir la vie. Il n'aura pas de points, lui. Hein.
Mais lui, ça tombe bien, il est hors compétition. Court. Il est belge, il n'a pas ses papiers. Dites-nous, Pouls.
C'est un plat inventé, effectivement, en Russie au XVIIIe siècle par un chef français, André Dupont, qui était le chef de la famille Stroganov, et pas Strogonov, hein, Stroganov. Donc c'est un plat de bœuf qui est mariné, sauté, mijoté. Voilà, on dirait une discipline olympique, mais c'est de la cuisine. Alors il faut du bœuf, une partie tendre du bœuf, parce que c'est un bœuf qu'on ne va pas cuire très longtemps. Donc on va prendre par exemple du rump steak, qu'on va couper en petits morceaux. Il faut un oignon, qu'on va aussi couper en petits morceaux, un
très
peu de paprika,
n'oublions
du
pas
bouillon,
ça.
De la moutarde et ce qu'on appelle de la crème aigre. Alors si vous n'avez pas de crème aigre, vous prenez la crème fraîche et vous rajoutez un peu de jus de citron dedans, ça va à peu près faire la blague. Donc en fait, on fait revenir votre oignon, on fait revenir le bœuf, on rajoute le paprika, on mouille avec le bouillon.
Faut expliquer dans les termes, on joue à un jeu avec Jarry qui s'appelle Titre, c'est-à-dire que dès qu'on entend une phrase qui peut ressembler au titre d'un film pornographique, on dit Titre. C'est compliqué parce que normalement on réagit sur une expression, mais
comment vous faites pour me connaître aussi bien,
cette chronique sur mesure.
On termine avec la crème aigre, on laisse cuire un petit peu et on sert.
C'est hyper simple.
Et on laisse cuire combien de temps?
On laisse cuire un petit quart d'heure, pas beaucoup plus que ça, parce qu'il faut, pas que le bœuf soit trop cuit.
Un petit quart d'heure,
20 minutes, pas plus.
Et avec quoi on sert quoi?
Avec du riz, par exemple.
Non, je pense qu'elle va penser au vin.
Non, non, non.
Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire. Elle s'en fout du riz. L'accord mais vin, c'est sa passion. Vous vous souvenez tous du personnage de Michel à moitié ?
Goûte, maman. Michel à moitié chante à moitié les plus grands succès de Claude François. Le lundi.
Eh bien, Europe 1 est fier de vous présenter son fils, Jérôme à demi.
T'as vraiment le sentiment que... Enfin, après, moi, je trouve ça... Je vois pas, il y a un reflet pile sur la...
Après, c'est vrai qu'il y a un peu le côté...
Mais bon. Ça rend fou. Vous nous rendez fous, Jérôme. Jérôme Lacroix, terminé une phrase, c'est pas compliqué.
Je suis un happening à moi tout seul.
Ah oui, vraiment.
Le bon se lève à minuit et demi, hein. Il est encore là l'après-midi pour
c'est
vous.
Vrai, c'est ouais. vrai. Bon, Jérôme Lacroix, je vous aime. Aujourd'hui, c'est un anniversaire que vous.
Oui. Je n'avais pas anticipé celle-ci. C'est vrai, je vous ramène il y a 51 ans, le 16 octobre 1968. Finale olympique du 200 mètres JO de Mexico. Ce jour-là, l'Américain Tommy Smith est champion olympique. Et la course, on ne le sait pas encore à ce moment-là, va donner naissance à l'image la plus célèbre de toute l'histoire du sport. Cette image, c'est celle-ci. Vous la voyez si vous êtes avec nous sur Europe1.fr, sinon bien sûr je vous la décris. C'est le podium qui suit cette course. Tommy Smith, médaille d'or, et John Carlos, médaille de bronze. Deux sprinteurs noirs américains lèvent chacun un poing ganté de noir au moment où retentit l'hymne américain. 400 millions de téléspectateurs voient ce geste de protestation contre la ségrégation raciale aux États-Unis, c'est passé à la postérité. Mais moi, je voulais vous parler cet après-midi du troisième homme de la photo, le médaillé d'argent. Alors, comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Peter Norman. Il est australien, il a 26 ans. Et après ce jour, sa vie de sportif de haut niveau, elle est terminée.
Mais pourtant, lui, il ne fait aucun signe de protestation.
Détrompez-vous, il porte à son survêtement un badge signé Olympic Project for Human Rights, le projet olympique pour les droits de l'homme. Le mouvement pour les droits civiques né quelques mois plus tôt dans une Amérique où Martin Luther King vient d'être assassiné. Le mouvement appelait les athlètes afro-américains à boycotter ces Jeux olympiques. D'ailleurs, Peter Norman, il a pris une part active dans la scène de ce célébrissime cliché. Une scène, alors il faut le savoir, elle a été improvisée quelques minutes avant le podium. On décide de lever le poing, il faudrait un gant noir. Tommy Smith avait avec lui une paire de gants, mais pas John Carlos, l'autre américain médaillé. Peter Norman, c'est lui qui leur suggère d'en enfiler un chacun. Par la suite, des années durant, les deux Américains, on a beaucoup écrit leur histoire, recevront des régulières menaces de mort, ils ne courront plus jamais pour leur pays, bannis. Eh bien, il en sera de même pour Peter Norman, dont la protestation ce jour-là cible aussi son pays, le sort des aborigènes australiens et la politique migratoire de l'époque en Australie qui privilégiait l'immigration européenne. L'Australie va lui faire payer.
Il est lui aussi exclu de son sport national ?
Alors, pas officiellement, mais c'est presque pire. En fait, on va tout faire pour l'effacer des mémoires. Il ne sera pas sélectionné pour les Jeux suivants, 72 à Munich. Il disparaît du paysage sportif et même de certains livres d'histoire. Il ne figure pas, par exemple, dans un ouvrage de 1999 consacré aux 100 plus grands sportifs australiens du XXe siècle. Il ne sera pas non plus invité au JO de 2000 qui se déroule chez lui à Sydney. Sa vie personnelle vole en éclats, divorce, alcool. Il contracte même une gangrène dans les années 80. Il échappe de très peu à l'amputation d'une jambe. Et c'est en situation comme ça de paria qu'il mourra en 2006 d'une crise cardiaque. Il a 64 ans. Ses deux amis, Tommy Smith et John Carlos, traversent alors le monde. Ce sont eux qui porteront son cercueil le jour de l'enterrement.
Mais ses héritiers vont se battre ensuite pour sa réhabilitation.
Son neveu, principalement, via des interviews, un documentaire très fort. Cette réhabilitation, elle intervient 44 ans après le podium de Mexico 2012 et le discours au Parlement du député Andrew Leff. L'histoire a donné raison à Peter Norman, a-t-il dit ce jour-là, devant la mère de Peter Norman, Thelma, 91 ans.
This is really an exciting time for
un moment incroyable, c'est ce qu'elle décrit. Il le méritait parce qu'il a tant fait pour le sport en Australie et pour le sport globalement et qu'il n'a jamais été reconnu. La reconnaissance, ça y est, parce que depuis la semaine dernière, eh ben une statue de Peter Norman trône près du stade de Lakeside à Melbourne, sa ville d'origine.
Claire Chazal, vous aviez connaissance de l'histoire du troisième
pas du tout.
Sportif
c'est,
sur le podium.
C'est très intéressant, vraiment très intéressant. Et c'est humain, quoi. Voilà, c'est ça. C'est le sport et
cette photo.
Des êtres humains.
C'est fou quand même.
Image incroyable. Et ouais. Vous avez présenté le JT pendant toutes ces années. Quel est le souvenir le plus fort que vous gardez d'un JT ? L'image qui vous a le plus marqué ?
Il y a certains événements sportifs. Alors bien sûr, hélas, j'ai envie de dire, il y a des conflits, des drames, des attentats. La déclaration, la guerre du Golfe, la catastrophe ferroviaire de Brétigny, enfin mille choses, la mort de Diana, enfin bon. Mais des événements sportifs sont restés gravés, et bien sûr les Coupes du Monde de football, parce que nous c'était notre sport, local, maison, et on a fait beaucoup de journaux dans les stades, y compris en Allemagne, y compris à Rotterdam, y compris en Afrique du Sud. Moi je me suis beaucoup déplacée et j'ai donc aimé le football.
Ah oui, on le sent. Je ne savais pas, j'apprends quelque chose sur vous, Claire Chazal, cette passion du football.
Oui.
Jérôme Lacroix, c'était pas mal, mais vous n'y couperez pas. Voici la question.
question vache de l'autre chroniqueur.
Ah, ça c'est clair.
Dutheil, soyez vache. N'ayez pas peur, c'est pas parce que Jacques Chazal est là.
Une question vache, j'ai oublié de dire que c'était passionnant. Moi j'ai eu des émotions en écoutant sa chronique. Qu'est-ce que vous voulez que je prouve ?
Quel compétiteur en carton ! Il faut savoir se battre, Dutheil. Toujours trouver quelque chose. Il faut être focus comme moi. Prenez exemple.
Bah oui, mais là j'en ai pas. Non, franchement, j'en ai pas.
Demandez-moi par exemple, le Peter Norman ce jour-là, il a couru le 200 mètres. C'est toujours le record en Australie, dis donc.
Ah bon ? C'est toujours le record en Australie.
Demandez-moi en combien de temps ?
En combien de temps a-t-il couru le 200 mètres ?
Je ne sais pas, Emmanuel.
Mais pas,
bravo.
Mais pas dans le monde, pas un record.
Non, pas dans le monde.
Ah bah non, ça reste en Australie. Quoi.
En tout cas, on remercie Jérôme Lacroix pour cette chronique. Vous vouliez ajouter une précision ?
Après, c'est vrai qu'il y a un peu le côté.
Oui, on n'a plus le temps. Bonjour Arthur Nbaché.
Cœur avec les mains. Bonjour Mathieu. Salut.
Cœur avec les mains, il est fou. Vous êtes notre correspondant dans l'Est, Arthur. Et vous nous parlez aujourd'hui d'une initiative totalement inutile, mais plutôt sympathique, des gens à vélo qui écrivent le mot love sur une carte d'Europe.
Ça s'appelle donc le GPS Drawing. Drawing pour dessin. En fait, vous vous déplacez et vos géolocalisations successives du smartphone s'enregistrent sur une carte, genre Google Maps ou OpenStreetMap, et votre itinéraire s'affiche. Et donc, j'ai l'immense honneur d'avoir dans ma zone de correspondant les deux nouveaux recordmen du monde. Jusqu'à présent, un Égyptien avait parcouru 700 ridicules kilomètres. Voilà, à présent, les 4000 bornes de Nico et Hugo,
oui,
23 ans tous les deux, nancéens, et sur la route tout le mois dernier.
Mais pourquoi est-ce qu'ils ont écrit le mot love ?
Par esprit de provocation, voyons, pour défriser les
biens. Ah, oui, c'est ça, c'est beau.
Et c'est aussi juste l'anagramme de vélo, en fait.
Ah, c'est pour ça. Mais pendant que vous me disiez ça, Charles Bénigne me demandait, on peut le faire en Porsche aussi ? Il y a avec un bon GPS, on peut le faire en vélo, finalement.
Non, mais lui, il est de Stuttgart, ça se voit. Franchement.
C'est
fini les bagnoles, enfin Mathieu,
c'est
terminé tout ça, mais c'est vrai, moi je suis en vélo maintenant, c'est vachement bien.
Comme vous Arthur, vous êtes aussi en vélo, alors
bah ouais.
Évidemment, alors je cite Nico que j'ai eu au téléphone, un des deux amis nancéens, on avait du temps libre à la fin de nos études, le projet est né autour de quelques pintes de bière.
Oui. Ah oui, je me disais aussi, ouais. C'est souvent là que les grandes idées naissent. Hein, mais...
Et donc, au-delà du délire pas très utile, c'est vrai, il dit que si ça peut promouvoir le vélo et sensibiliser un peu à l'environnement, tant mieux. Alors, en observant la carte, j'ai un petit quai sur le V de Love un peu mal écrit.
Oh, mec, vous êtes vraiment chiant.
Ah ouais, non,
mec relou. Vous lui avez dit ça au téléphone ? Regardez,
oui,
le V là, t'as fait un petit détour.
Il est pas d'ailleurs comme hein. Tout.
Et donc, il m'a expliqué pourquoi. Il y a 15 jours, ils étaient en Autriche. Ils pensaient prendre un tunnel de 10 km sous la montagne, mais tunnel interdit aux cyclistes. Et pour être sûr de voir leur record homologué par le Guinness, ils ont préféré ne pas prendre le risque de mettre leur vélo dans la navette du tunnel. Et donc, détour de 60 km, quitte à amocher un peu ce V.
Vous pouvez bien compter sur moi.
Comme quoi, l'amour n'est jamais parfait.
Ah oui, c'est ça.
Un type a décidé la chapelle Sixtine dans les rues de Nantes. Bon, c'est très moche. Faites plutôt comme celui qui a tracé une cigogne chez moi à Strasbourg avec une des pattes qui passe dans ma rue. Je vous invite et si vous avez faim, je vous offrirai une barre céréale ou un pretzel.
Un pretzel, ah vous ouais. Voulez m'étouffer
ah ouais.